Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
Moi, en fait, mon rêve dans la vie, c'était beaucoup plus d'avoir une carrière académique. Moi, j'avais 8-9 ans, là, puis c'était clair dans ma tête qu'un jour, j'aurais un doctorat.
Okay.
Je fais un bac en droit, puis j'ai commis une espèce de désenchantement un petit peu pendant ce bac-là. J'ai réalisé que l'université... J'idéalisais peut-être un petit peu ce que c'était. Puis là, j'étais pas certaine si c'était l'université en tant que telle ou si c'était le droit que j'aimais pas.
Okay.
Donc, je me suis inscrite dans un autre bac en études internationales. Okay? Donc, tu me suis, je suis en études internationales pour essayer d'explorer d'autres domaines, tout ça. Et moi, à côté de ça, je fais des sites web. J'ai toujours fait des sites web. Je sais programmer, j'ai appris à programmer toute seule quand j'étais jeune. Et c'est comme ça que je finance mes études.
Okay.
Mais c'est pas un projet. C'est
ouais.
un
moyen vers le fait de faire tes études.
C'est un sideline, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé pour une agence. J'ai fini par m'intéresser, à cause de cette agence-là, à la publicité Facebook, au copywriting, au marketing en ligne. Et j'ai commis une espèce de coup de cœur pour le copywriting qui se décrit difficilement. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut étudier à l'université ici au Québec. Là. Tu sais, tu peux faire des cours de marketing, mais c'est vraiment plate. Puis la conception rédaction est vraiment plus traditionnelle. T'sais, ils vont t'apprendre à faire des slogans sur des affiches, mettons. Puis ça, moi, ça me faisait pas vibrer. Mais l'idée d'écrire des textes pour faire changer les gens d'avis puis d'être payé pour ça, ça m'a vraiment allumée. Mais encore là, c'était un à côté. Puis c'est resté un à côté jusqu'à ce qu'un matin, je me lève et que je réalise « Ouais, ben ce que je fais à l'université... » ça me passionne pas tant que ça. Puis ce que je fais dans mon à côté...
ça me passionne plus que le truc principal.
Voilà, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Puis c'est pour ça que je dis des fois que je suis une entrepreneur accidentelle. Tu sais, quelque part, c'est comme... c'est arrivé sur mon chemin, ça m'a charmé. et éventuellement, comme naturellement, je suis allée vers ça. Mais j'ai pas fait de sacrifice, j'ai pas, tu sais, moi j'étais étudiante, je vivais en colocation avec mon frère et mon copain, j'avais très peu de dépenses, j'étais habituée de vivre sur un salaire très maigrichon qui s'appelle les prêts et bourses du gouvernement, puis mon petit emploi étudiant que j'avais à côté, fait que c'était pas... Ouais, je trouve que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, disons, qui ont perdu un bon salaire en entreprise au début, puis que c'était donc stressant.
Ouais, le saut dans le vide.
Voilà, le saut dans le vide, tout ça. Moi, je te dirais pas que c'était pas un saut dans le vide, dans le sens que oui, j'ai fait le deuil d'avoir une carrière académique, puis en fait, ça a complètement changé la direction que je pensais que ma vie allait prendre, ça c'est certain. Mais ça s'est fait vraiment organiquement, et j'avais vraiment la sensation que c'était la bonne décision quand c'est arrivé, tu sais.
Super intéressant, parce que ouais... J'ai l'impression, moi aussi, de pas avoir vécu ce grand saut que certains ont de « Ah, ma vie change et je dois renoncer à quelque chose » parce que je me suis lancé aussi à la fin de mes études, voire pendant mes études. Même si, moi, le message que je recevais à l'époque de la part de mon entourage, qui était du coup à l'époque mes profs, les responsables de master et la directrice ou les gens dans l'agence où j'étais parce que j'étais en alternance. Je sais pas si vous avez ça au Québec, l'alternance. En gros, c'est « Tu fais tes études ». 3 jours par semaine.
Et tu travailles à côté?
Et tu travailles à côté dans le cadre de tes études.
Ouais, nous on appelle ça la coop, le régime coop, okay. Mais ouais.
Ouais. C'est, bah, du coup, je faisais ça.
Makes sense.
Et un peu tout l'entourage dans le monde professionnel que j'avais, c'était ne fais pas ça, prends un vrai job et tu te lanceras quand tu auras de l'expérience et le réseau et que tu auras fait tes preuves, grosso modo.
Ouais.
Du coup, enfin voilà, c'est marrant parce que j'ai pas vécu le saut dans le vide et en même temps, on m'encourageait pas, quelque part.
Non, puis c'est clair. Ouais, puis moi, j'étais vraiment pas bien entourée, en fait, quand je me suis lancée, parce que comme je prenais pas mon projet au sérieux, ben, j'étais pas nécessairement dans des groupes de réseautage au début, j'étais pas nécessairement entourée d'entrepreneurs. Donc, c'est certain qu'étant entourée de personnes qui étaient à l'université, c'était un peu étrange pour moi de... Tu sais, mes amis salariés, mettons, ont pas nécessairement compris ce qui s'est passé, là. Tu sais, c'était comme... Ou mes amis étudiants, tu sais, c'était comme du jour au lendemain...
Ouais.
Je rentre dans un univers qui leur est un peu inaccessible, tu sais, qui est différent pour eux. Mais très contente de l'avoir fait, là, finalement. Ouais. Ouais.
Et du coup, c'était quoi le first step? Tu disais tout à l'heure, t'as pris conscience que je suis plus fasciné par mon à côté que mon truc principal. Il se passe quoi après la prise de conscience?
Moi, j'ai été extrêmement chanceuse parce qu'au Québec, personne n'en parlait de copywriting quand je suis arrivée. C'était... vraiment peu connu. Les seules personnes qui étaient conscientes de ce que c'était des gens qui consommaient du contenu américain en anglais, par exemple. Donc, moi, j'arrive, mettons, mets-toi 2016, OK? Il n'y a pas un blog francophone québécois qui parle de copywriting. Mmh. Au point où, quand je prononce le mot copywriting, les gens pensent que je fais de la propriété intellectuelle, puis personne comprend ce que je fais, donc je me mets à appeler copyright. Ça rédaction persuasive.
Oui.
C'était un choix pour mieux... que ma cible comprenne ce que je faisais. ce que ça a permis, c'est que je suis arrivée dans un marché où tout était à faire. J'avais, tu sais, toute l'éducation sur qu'est-ce que c'est le copywriting, tout ça était à faire. Donc, en 2017, à peu près, j'ai acheté mon nom de domaine, lesmotspourvendre.com, j'ai commencé à faire des lives où j'en parlais, j'ai commencé... Puis très, très, très rapidement, j'ai pu me tailler une place comme le niveau de sophistication de ce marché-là à l'époque était vraiment différent. Tu sais, un copywriter qui se lance en 2021, il y en a beaucoup maintenant des copywriters, faut que tu aies un facteur de différenciation qui est très fort, faut que... Moi, j'ai eu le défi de devoir créer mon marché, mais j'ai eu la chance de que pouvoir créer mon marché aussi.
Ouais.
Tu sais, j'avais pas les mêmes défis que quelqu'un qui se lance aujourd'hui.
Ouais, et du coup, ce qui fait que, en tout cas au Québec, t'as l'association assez rapidement qui vient de copywriting
Alexandra Martel.
Ce qui est incroyable comme...
Ouais, c'est génial pour vrai. Là, au-delà de toutes mes attentes maintenant. Puis j'ai écrit pour des clients... vraiment extraordinaire, vraiment rapidement. Tu sais, ma business a vraiment monté comme ça. Puis c'est sûr parce que il y avait personne. Puis moi, je ne faisais que ça, consommer du contenu sur le copywriting. C'était vraiment comme découvrir mon héroïne, genre, tu sais, subitement. C'était ça ma sensation.
Ouais, et ça souligne pour moi 2 choses qui sont importantes que tu as dit là. C'est le premier, réussir à trouver ce facteur qui fait que on est nouveau quelque part, et il y a cette réflexion que moi je me souviens, j'ai appris ça pendant mes études marketing stratégie, c'était genre la stratégie de l'océan bleu et de l'océan rouge.
Ouais.
Où en gros, ça dit, s'il y a plein de poissons, c'est un océan rouge, ça va être compliqué, il va falloir se battre pour avoir la place. VS un océan bleu où il n'y a personne. À l'époque, ça me semblait, bon, voilà, c'est pas un truc, t'es à l'école, tu sous-estimes tout. Et maintenant, je me rends compte à quel point, ah ouais, en fait, c'est vraie réflexion de se dire, j'arrive dans tout cet écosystème, c'est où les endroits inexplorés encore, mais où ça répond à un vrai besoin.
Bah oui.
Et là, copywriting, c'est large. Aujourd'hui, quand il y a plus de monde, ben, faut trouver d'autres manières de faire. Mais...
Ah ouais, absolument. Puis, tu sais, quand un marché est sophistiqué à ce niveau-là, quand on pense au copywriting, ben c'est ça, c'est important de trouver toi, qu'est-ce que tu peux apporter à ce marché-là, c'est quoi ta couleur, c'est quoi ta contribution finalement. C'est un défi qui est différent, mais qui est super intéressant. Puis la plus grosse différence, je pense, c'est que moi, quand j'appliquais, là, okay, quand je soumissionnais, là, au Québec on dit ça, quand j'envoyais un devis à un client pour un mandat de rédaction, le pricing qu'il avait en tête, c'était un pricing de rédaction web, là, genre 40$ de l'heure. Fait que moi, j'ai eu le défi aussi d'augmenter la valeur perçue de ce que je faisais. Vraiment, tu sais, ça... Ouais. Fait que versus un copywriter qui commence aujourd'hui, je pense que les gens sont un peu plus conscients de ce que ça
de ce
vaut,
que ça importe.
Cette expertise-là.
Ouais, c'est intéressant. Fait que
tu sais, c'est ça, il y a tout le temps des pour ou des contre. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. C'est juste d'être conscient de c'est quoi l'état du marché en ce moment, puis comment moi je peux trouver la façon la plus audacieuse et astucieuse de m'insérer là-dedans.
T'sais. Ouais, ouais. Et ouais. Recréer de la différence de nouvelles manières plutôt que.
Voilà.
Que ce qu'on fait au début, quoi. Ouais, ça ouais. Évolue au fur et à mesure. Et. T'es arrivé là, du coup, sur un des sujets sur lesquels je voulais qu'on prenne le bâton et qu'on court, qui est le sujet du pricing.
Ouais.
C'est drôle parce que j'ai l'impression que t'es arrivé à un stade où la rédaction persuasive, comme tu dis, c'est un outil parmi d'autres pour aller augmenter nos prix et mieux vivre de ce qu'on fait. Et la tagline que t'as sur LinkedIn, que je trouve très drôle, à chaque fois que je la vois, ça me fait sourire, c'est « la fille qui veut que tu mettes un zéro de plus ou qui veut que tu montes ton prix ».
Ouais.
Du coup, question très ouverte sur ce truc. Je veux mettre un zéro de plus, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, la première étape, je pense, c'est de... En fait, il y a plein de gens qui pourraient juste ajouter un zéro puis ça fonctionnerait déjà. Tu
ouais.
comprends ce que je veux dire? La raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... comprennent mal la valeur qu'ils apportent aux gens puis qui sont très mauvais pour se mettre en valeur. La raison, je pense, c'est que quand quelque chose est facile pour nous, quand on a un talent pour quelque chose, tu sais, moi, mettons, je suis arrivée dans le copywriting, puis c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait avec qui je suis, mes forces, mes faiblesses, etc.
Ça clique, quoi.
J'ai compris comment ça fonctionnait très vite. Puis ça n'a pas été très long que j'ai été capable d'écrire des très bonnes pages de vente. Parce que c'était... Ça fonctionnait avec des choses que j'avais déjà acquises, des compétences que j'avais déjà... Tu sais, moi, j'ai étudié en droit parce que je voulais plaider, je faisais du concours de débat, j'ai toujours eu un intérêt pour la persuasion. Je fais des cours de rhétorique à l'université, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Donc, évidemment... ma courbe d'apprentissage a été super rapide. Mais quand ta courbe d'apprentissage est rapide dans quelque chose, quand t'es doué pour quelque chose, ben automatiquement, t'assumes que c'est facile pour les autres. C'est pour ça que t'es pas nécessairement un bon formateur quand t'es bon dans quelque chose, by the way, là, parce que tu vas prendre pour acquis que les gens vont comprendre aussi vite que
ouais.
toi. Vont, t'sais, c'est, ça te demande vraiment un exercice de comme ce
de se mettre dans le
de
monde
se mettre
de
dans
l'autre.
La peau ouais. de quelqu'un d'autre, tu sais, finalement. Mais bref, ça fait que tu t'accordes très peu de valeur à ce que tu fais parce que pour toi, c'est facile. T'as l'impression que, ah, oh, voyons donc, il payera pas cher pour ça. Ça m'a pris juste 2 heures faire cette page de vente-là, peu importe. Tu comprends
alors
ce que je
veux dire? 2 heures de toi, mais pour l'autre, ce serait
ben
rien
oui,
à voir.
Ben oui, voilà, rien à voir. T'appliques quand même des aptitudes que tu as, tu sais. Fait qu'il y a déjà ça, d'être capable de jeter un regard qui est... neutre sur ce que tu fais, c'est pas facile.
Ouais.
C'est la première étape pour bien fixer son prix.
C'est hyper intéressant parce que moi, c'est quelque chose que je vis souvent dans ce que je fais où, enfin voilà, au bout de 4, 5, 6 ans à réfléchir au même sujet, à creuser, à documenter, à explorer, à apprendre d'autres choses à rajouter, il y a un moment où ça, tu sais, ton cheminement logique dans ta tête, il devient assez clair et c'est seconde nature presque. Et quand tu partages à quelqu'un qui n'a pas vécu les 4, 5, 6 dernières années avec toi dans ta peau, tu vois, moi, des fois, je partage des trucs, je suis en mode « Ah, c'est normal, c'est juste how I think. » Et il y a d'autres gens qui sont en mode « Waouh, j'ai jamais entendu ça. » Et c'était toujours l'espèce de décalage en mode, t'as jamais entendu ça, mais attends, tu vois. Et alors que pour toi, c'est juste tellement fluide parce que ça fait 5 ans que tu te poses la question et que tu réfléchis.
On le vit beaucoup dans le monde de la formation en ligne parce que, tu sais, si je pense à moi, je suis un peu tannée là, de parler, de faire des sauts de ligne, puis de la voix unique, puis du client idéal, tu sais.
Ouais.
J'ai fait le tour. Mais il y a tellement de gens qui ne connaissent pas encore ces concepts-là, donc il faut constamment que je me ramène à... Oui, OK, moi, mes connaissances, puis moi, ce qui me challenge, puis moi, comment je peux continuer d'évoluer, mais aussi servir les gens qui commencent par la base. Mais bref, fait que pour ton prix, première affaire, pour ajouter un zéro, ben vraiment, être capable de poser un regard qui est extérieur à toi sur tes services. Ça, ce que ça va te permettre de faire, c'est de tout simplement mieux les représenter. Parce que la plupart des indépendants, des travailleurs autonomes, ce qu'ils vont faire quand ils vont vendre, par exemple, une prestation de service, c'est qu'ils vont envoyer un devis qui est, moi j'appelle ça des devis liste d'épicerie. C'est-à-dire qu'ils vont lister des livrables. Oui. Je vais te rédiger 8 textes de tant de mots. Je vais te programmer tant de pubs Facebook. Je vais optimiser tes pubs Facebook pendant tant de semaines. Je vais, tu sais, c'est toujours une liste d'épicerie de livrables. Ouais. Puis ça... Ça
avec un temps en face, en plus.
Oui, avec un temps, souvent, parce qu'ils vont charger à l'heure, ce qui est complètement absurde, by the way, mais on pourra en parler.
On y reviendra.
Mais bref, ils font vraiment leur petite liste d'épicerie, puis ta liste d'épicerie ne veut strictement rien dire. Tu sais, ta liste d'épicerie, je veux dire qu'une page de vente fasse 500 mots ou 2700 mots, c'est le même travail de fond que je dois faire en arrière. Puis ça, il faut que mon client le comprenne si je veux qu'il soit prêt à payer le gros prix pour 500 mots. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est de traiter aussi nos devis comme une page de vente, de prendre le temps d'expliquer c'est quoi ton processus, comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais de spécial. Puis si tu prends le temps de décrire ça, là, la valeur perçue de ton produit va augmenter.
Ouais, et on parlait de différenciation juste avant. Moi, c'est un truc que je partage souvent aussi... aux gens qui me suivent, c'est que quand tu fais juste un, quand t'envoies juste un devis et que c'est ton outil de vente, qui est une page blanche avec ta liste, comme tu dis, tu deviens tellement facilement comparable à quelqu'un d'autre.
Il y a
parce
juste
que
le prix.
La seule chose qu'on va regarder, c'est OK, c'est quoi la liste? OK, c'est la même
on
liste.
On peut faire
que
un
ça.
Tableau Excel, livrable.
Exactement. Et je regarde, il y en a une qui s'appelle Julie, l'autre qui s'appelle Marc. Et bon, ben Marc est moins cher, on va partir sur Marc. Quoi.
Voilà.
Et ça, c'est pas l'objectif pour nous. Effectivement, ben on veut se rendre incomparable.
Un bon devis, là, c'est vraiment comme une page de vente. Là. C'est designé. Puis t'as des arguments de vente dedans. Tu parles des bénéfices que tu vas apporter à ton client. Tu parles de ton processus. Puis quand ton client il compare ce devis-là au devis liste d'épicerie de Marc, ben il se dit je m'en fous de payer 10 fois plus cher pour Julie. Puis, j'exagère pas quand je dis 10 fois plus cher, parce que quand j'ai commencé en copywriting, moi, c'était ça le comparable. C'était mon devis, par exemple, où je charge, je sais pas, moi, quelques milliers de dollars pour une page de vente, versus le rédacteur qui propose de te le faire à l'heure ou au mot. Ouais. Fait que le prix était vraiment plus élevé de mon côté. Et pourtant, le client préférait travailler avec moi. Il y a une raison. C'est qu'il voyait la valeur perçue était aligné avec la valeur réelle. Ça veut pas dire que l'autre rédacteur faisait pas une bonne job. Peut-être qu'il faisait une aussi bonne job que moi, mais s'il est pas capable de rendre cette valeur-là visible, puis si son prix, en plus, envoie un signal qui est pas aligné, tu sais, si tu charges pas cher, ben les gens vont assumer que tu fais pas du bon travail, là, c'est un fait. Voilà.